RMC.
Philippe, il a toujours convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil, parce que moi, ça serait demain matin à 6h, et c'est honteux ce que j'ai aujourd'hui. Je me réserve parce que je vais exploser.
Le Super Football Show.
Personnellement, les fessés, ça me plaît pas trop. Peut-être certaines personnes qui s'en réjouissent de prendre des fessés, pas moi.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Il y a des boîtes spécialisées pour cela. Mais moi, j'y vais pas dans ces boîtes-là.
Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'After, comme tous les lundis entre 22h et minuit, avec les avis tranchés de l'After sur l'actu française. On va parler de Vieira à Nice, on va parler de l'équipe de France, sur l'actu européenne tous les lundis avec nos drôles de dames. Philippe Auclair sera là, Fred Hermel sera là, David Lorto sera là, on ajoutera même Sacha Tavolieri car la Belgique joue en ce moment. Tout cela avec notre pilier du lundi, Pierre Ducrot. Salut Pierre.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir Joe.
Avec celui qui, plutôt que de dire c'est une invention qui est arrivée par hasard, parle de sérendipité, Jonathan Macardy. Salut Jonathan.
Salut Jean-Louis, salut Pierre.
On a eu le fin mot de sérendipité.
Bien sûr,
ça existe, il n'y a pas de souci.
Bien sûr que ça existe.
D'accord.
Tout le monde est curieux de savoir quel mot intelligent il a glissé dans son avis tranché du soir pour
aujourd'hui.
Mais je ne prévois pas.
Toi c'est
bien
naturel,
sûr,
et toi tu le vois pas, mais nous
j'ai
on le voit
des
tout
notes,
de suite.
Mais je le prévois
bien
pas.
Bien sûr, on dit tout sérendipité quand on discute comme ça. Hein.
Bien entendu.
Voilà, bien sûr.
Bah on le dit un peu par sérendipité d'ailleurs.
Oui.
Exactement. Si bravo. je suis fier de voir que je te sers au moins à ça.
Ah mais ouais non mais carrément et j'utilise aussi maintenant Exogène.
C'est bien.
Ouais.
Oui, alors même si bon.
Alors le problème c'est quand je fais des rendez-vous dans les clubs et que je dis ça, ça passe pas. Et je me fais renvoyer.
Non, mais le recrutement Exogène, il faut quand même bien dire que c'est un énorme pléonasme.
Bah bien sûr.
Nous on dit on monte en haut, on descend en bas quand on fait des pléonasmes. Voilà. Lui il dit c'est un recrutement Exogène.
C'est un beau recrutement dans des équipes de jeunes.
Bah c'est pas un recrutement.
Ça peut être une recrue. Oui, c'est vrai. T'as raison. Je te le concède.
Merci. Moi, ça fait un mois et demi.
C'est un pléonasme stylé.
Ne tombons pas dans de la logomachie bas étage. Je suis d'accord avec toi.
C'est vrai que c'était un peu de la logomachie. J'ai fait exprès là.
Là, j'ai fait exprès, bien sûr.
Alors, les avis tranchés, bien sûr. On vous attend au 32-16. Hashtag RMC Live également sur Twitter. Vous venez nous dire ce que vous en pensez des avis développés dans l'after. Évidemment, on est en spéciale Coupe du Monde. À 3 jours du début de la compétition, à 5 jours de l'entrée en lice des Bleus dans cette compétition. Je vous donne quelques infos qui concernent l'équipe de France. Donc, ils sont arrivés hier en Russie, vous le savez bien sûr. Aujourd'hui, conférence de presse de Didier Deschamps, le sélectionneur, qui est revenu déjà sur ce qui s'est passé face aux États-Unis et ce match nul un but partout. Écoutez-le déjà sur le cas Hugo Lloris. Lloris qui reste sur deux matchs un peu compliqués où il n'est pas irréprochable sur les deux buts encaissés par les Bleus face à l'Italie et face aux États-Unis. Voilà ce qu'en pense le sélectionneur Didier Deschamps.
Je ne vais pas commenter les critiques. C'est vous qui choisissez un moment sur un, sur l'autre. Voilà, évidemment que je parle avec Hugo. Celui de contre les États-Unis, oui, il peut mieux faire sur ce type de situation. Les joueurs, ils peuvent faire des erreurs tant que ça amène pas à un but, ça reste une péripétie. Les gardiens, c'est spécifique, mais Hugo a l'expérience.
Voilà, on a discuté aussi avec Fabien Barthez du cas Lloris cet après-midi dans Team Duga. Et Barthez dit il n'y a pas forcément à s'inquiéter. Nous les gardiens, entre les matchs de prépa et les matchs de compétition, ça change pas mal.
Il va se mettre dans une bulle, mais voilà. Tout va bien se passer.
Bon, de toute façon, Lloris, est-ce que c'est vraiment un sujet? On sait qu'il fera la Coupe du Monde.
Oui, quoi qu'il arrive.
Il ne sera pas enlevé.
Non, c'est capitaine.
Ça peut être une inquiétude, mais c'est pas un débat.
Non, c'est une inquiétude.
Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que je pense un bel arrêt au premier match, voilà, décisif. Une seule action des Australiens, bim, qui mettre dedans et ça fait
après, il faut dire que ça fait un moment qu'il a pas été très rassurant aussi, tu vois. Il est quand même dans une période qui n'est pas la meilleure période de sa carrière.
Oui. Oui, c'est vrai.
Et puis en plus, on a un expert du poste ce soir, la personne de
Ça, c'est vrai aussi.
C'est plutôt à lui de donner son avis tranché sur les gardiens.
En même temps, il n'y a pas besoin d'être gardien de but pour voir que Lloris est en difficulté là quand même.
Tu préfères un gardien de but ou tu préfères Thomas Müller qui fait des pubs pour les barbecues?
Ah, là tu vas sur ma sensibilité. Là c'est difficile quand même.
Le barbecue ou...
Ouais, le barbecue.
Ouais, le barbecue.
Autre sujet, à part Hugo Lloris.
Ça aurait pu être Thomas Müller.
Olivier Giroud. Ouais, Müller, moi j'aime bien quand même. Hein,
mais... ouais.
Le problème, c'est que je fais une émission avec quelqu'un qui ne le supporte pas.
C'est un de mes joueurs favoris.
Avec du gars. Mais bon.
Je pense que c'est mon joueur favori même.
Ah ouais?
C'est vrai?
Bah, techniquement, c'est vrai que c'est pas dingue. Maintenant que Duga m'a contaminé là-dessus, je le regarde
au bout et t'as ouvert un peu les yeux.
Il rend les autres meilleurs. C'est un buteur,
oui. Mais
c'est d'ailleurs pour ça que c'est exceptionnel ce qu'il fait.
C'est le ballon d'or moral de 2014.
Parce que techniquement, il est en dessous de beaucoup d'autres et qu'il arrive à faire
ça. Physiquement aussi.
Bon, là, c'est même physiquement aussi,
c'est vrai quand même. C'est vrai. Mais en 2014, c'est lui le ballon d'or moral.
D'accord. On peut faire un ballon d'or moral.
Des champions en Coupe du Monde.
Ouais. Quand même. En même temps, quelques buts. 93, tu donnes à Eric Dimeco le ballon d'or moral.
Bien sûr. Ah,
c'était sûr. Voilà.
Bien sûr.
Alors, autre cas, dont Didier Deschamps a parlé aujourd'hui. Olivier Giroud. Alors, c'est vrai, Giroud, on l'a pas senti très à l'aise dans ce système. La faute, sans doute, à des joueurs qui vont trop dans l'axe, qui écartent peu, qui font peu de centre. Écoutez ce qu'a dit Didier Deschamps sur Olivier Giroud aujourd'hui.
Sa tête va bien. Il y a 6 points. Donc, évidemment, on devra au moins sur les 48 heures faire en sorte qu'il touche pas le ballon de la tête. Si vous attendez d'Olivier Giroud qu'il prenne le ballon, qu'il dribble 3-4 adversaires, non. Mais n'enlevez pas la qualité à Olivier. Regardez ce qu'il fait, les buts qu'il marque, qu'ils soient beaux ou pas beaux. Ça reste des buts, c'est un finisseur, c'est un buteur. Si on attend la même chose d'Olivier que de Kylian et Antoine, moi j'attends pas la même chose.
C'est voilà. Sûr. Ben oui, puisqu'on a parlé effectivement du fait qu'il allait moins vite que les autres, mais effectivement le profil,
oui,
c'est pas dur.
Oui, oui, le profil est complètement différent. Non mais on apprend rien, mais on est rassuré que Didier Deschamps soit en phase avec tous les profils, oui, différents qu'il a devant,
qu'il a pris aussi, ouais, donc
bah ouais, voilà qu'il a pris.
D'ailleurs, petite info sur sa blessure à la tête, donc a priori pas de forfait pour le match face à l'Australie dans 5 jours. Les points de suture qui lui ont été mis devraient être retirés le matin du match, parce que la crainte, c'est la cicatrisation. Il n'y a pas eu de traumatisme crânien ou de commotion cérébrale, donc on est plutôt rassurant.
Ils vont enlever les points, ils vont mettre des petits stéristrips, ouais, et puis voilà un petit bandage.
Umtiti, Sidibé sont entraînés à part, sinon aujourd'hui, voilà les petites infos en provenance d'Istra, où il y a sécurité maximum, puisque Noël Legrette, alors qu'il avait son accréditation autour du cou, n'a pas pu rentrer à un endroit, oui, parce qu'il n'avait pas tous les macarons sur sa voiture.
Mince.
Donc voilà, même Noël Legrette a dit, oh, je suis président de la Fédé, tout, mais non. Même Noël Legrette, ça passe pas. Voilà, c'était la petite histoire du jour à Istra.
C'est rigolo, puis ça a dû s'arranger quand même.
Oui, c'est ça. Ce sera dans 5 jours donc, et évidemment dans 3 jours, à partir de jeudi, on passera en intégrale Coupe du Monde sur RMC, sur BFM Sport. Vous n'allez rien rater autour donc de cette compétition. Je vous signale que la Belgique mène 3-1 face au Costa Rica.
C'est un beau match.
On est une demi-heure de la fin de la rencontre. T'as eu un œil dessus?
Bah, j'ai regardé avant de venir à l'émission la première mi-temps. Je crois que c'était pas mal, ouais.
Écoute, je crois que c'est ce que pense aussi Sacha Tavolieri, qui n'a rien de la rencontre et qui sera avec nous tout à l'heure. Premier avis tranché du soir. On y va. Jingle McCarthy.
Celle du bisounours CI, quitte à résister aux objurgations des esprits chafouins. La déception un petit peu conjoncturelle de cette non-qualification, c'est que t'aimes pas ce Monico, mais pénalise l'équipe.
Là, j'ai tout compris.
Très belle conclusion, Jérôme. Magnifique.
Toujours.
Alors, Jonathan, donc tu as identifié le problème des Bleus. Et pour toi est le problème majeur.
Écoute, j'ai écouté avec attention l'avis de Pierre hier. J'étais tout à fait d'accord avec lui sur les carences offensives de l'équipe de France. Mais il y a une chose qui m'inquiète encore plus, en fait. J'ai revu le match des Bleus ce matin face aux États-Unis. Et force est de constater, en fait, que ces Bleus continuent de me laisser un peu dubitatif. Alors, à mon sens, le résultat, il est un tantinet anecdotique dans la mesure où ça aurait pu être une défaite ou une très large victoire. Ça aurait pas forcément voulu dire grand chose. On est trop près du début des vraies hostilités. Je pense que les joueurs se mettent un petit peu, jouent un petit peu à l'économie avec le frein à main pour éviter la blessure. Il y a la pression de la Coupe du Monde qui va arriver. Donc, tac, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce qui me dérange, en revanche, c'est cette tendance qui, j'ai l'impression, qui se dégage depuis déjà plusieurs matchs. Mis à part face à mes compatriotes irlandais qui étaient bien trop faibles pour, offensivement sur ce match, pour inquiéter qui que ce soit, j'ai comme le sentiment d'une sorte de fébrilité cyclique qui se dégage de la part de cette équipe de France. Rappelons-nous de la Colombie. Rappelons-nous de la Russie, qui n'étant pas non plus des foudres de guerre. Rappelons-nous du match contre l'Italie et constatons simplement ce qui s'est passé contre les États-Unis. À chaque fois, je trouve qu'il y a bien trop, il y a beaucoup trop de situations dangereuses sur les cages d'Hugo Lloris et il y a bien trop de tirs qui ont été concédés par l'équipe de France face à des adversaires qui n'étaient pas non plus à chaque fois des adversaires de très haut niveau, je le répète. Alors, plus que des erreurs individuelles, c'est l'ensemble du système défensif qui m'inquiète. Plus encore, c'est la manière dont le bloc équipe de cette équipe de France se comporte dans les phases de transition. À chaque fois, je me trouve extrêmement fébrile dans les phases de transition offensive et aussi extrêmement fébrile dans les phases de transition défensive. Alors, quand je parle d'être fébrile dans les transitions offensives, Pierre l'a très bien expliqué hier. Alors évidemment, on a vu qu'on les États-Unis, Mbappé et Giroud, ils ont passé leur temps dans l'axe. Il y avait aucune horizontalité. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à régler de ce point de vue-là si Deschamps veut continuer à jouer avec ce losange. Je pense que le problème vient pas forcément juste de Mbappé et Giroud, mais vient aussi des milieux relayeurs qui occupent mal les interespaces sur la largeur du terrain et qui font que l'équipe elle est un petit peu segmentée. Et bon, ça c'est un autre
autre sujet. Pour en revenir à nos moutons, moi, ce qui m'inquiète vraiment, quand je parle de fébrilité, je parle de joueurs qui savent pas, on a l'impression que les défenseurs de l'équipe de France ne savent jamais quand, qui doit sortir sur l'attaquant et quand ils doivent sortir. Alors là encore, les deux milieux relayeurs sont à mon sens aussi en cause parce que je trouve qu'ils n'apportent pas suffisamment de soutien dans les half space défensives et je trouve que l'équipe le subit vraiment. Alors, vous connaissez mon opinion sur N'Golo Kanté en 6. Pour moi, je vous l'ai dit, c'est ni fait ni à faire. Même si sa classe intrinsèque fait qu'à chaque fois, ben quand il joue devant la défense, il est quand même bon parce que c'est un joueur de classe mondiale. Mais il lui manque deux choses parce qu'on peut pas non plus tout lui demander. Il lui manque cette capacité à faire le pas en arrière pour se remettre entre ses deux centraux et permettre justement à rééquilibrer toute la défense quand l'équipe passe en phase de transition défensive. Et il lui manque aussi cette capacité à offrir une vraie première relance de qualité, comme on a pu le voir quand Nzonzi a joué à sa place. Alors, ce qui m'est apparu contre les États-Unis, c'est encore plus que ça. C'est que la capacité que qu'a N'Golo Kanté à mettre une pression de tous les instants sur le bloc adverse, c'est-à-dire cette pression assez haut au milieu de terrain, avec le danger qu'il fait peser à chaque fois de récupérer un ballon assez haut et de faire que l'équipe de France se projette très très vite vers l'avant, c'est une de nos meilleures armes pour défendre. On doit défendre en avançant, on doit défendre en étant dangereux. Et ça, en jouant sans compter et en jouant avec, par exemple, un Paul Pogba qui aime beaucoup plus toucher le ballon et qui est beaucoup plus lent pour le lâcher, ça nous pénalise aussi défensivement. Alors, ce qui en résulte de tout ça, quand on regarde, en fait, quand on fait le panorama de tous les derniers matchs amicaux de l'équipe de France, c'est que la distribution des rôles à la récupération et sur les sorties des défenseurs sur les attaquants, c'est illisible. J'ai vraiment du mal à comprendre qui va en couverture, comment les latéraux défendent. J'ai jamais compris, en fait, comment l'équipe de France était organisée défensivement. J'ai l'impression qu'on est toujours un petit peu sur le fil du rasoir et qu'on est sauvé par la faiblesse relative des équipes qu'on a affrontées lors de ces derniers matchs. Alors, c'est vrai que ce qui pourrait arranger la chose, c'est que il nous faudrait un vrai taulier derrière. Cette espèce de général qui remettrait tout le monde dans le sens de la bataille. Mais on l'a pas. On l'a pas. Alors, à défaut de ça, à défaut de l'avoir, ce gars, moi je trouve que ce qui manque, c'est de la fluidité dans les déplacements. Et je pense que ça se travaille en entraînement. Pierre, tu me contrediras pas. La fluidité dans les déplacements, c'est bien de la travailler sur les phases offensives, mais c'est aussi bien de les travailler sur les phases défensives. Et j'ai l'impression qu'on nage en plein flou. Alors bon, on va pas tomber dans l'uchronie, on va attendre. Offensivement, je m'inquiète pas parce que je sais qu'on a des attaquants qui peuvent marquer à tout moment. Mbappé, Lemar, d'avoir ça, de voir ce potentiel-là, même si le jeu offensif n'est pas forcément très fluide, eh ben je pense qu'avec ces joueurs-là, avec leur potentiel, on arrivera à marquer des buts. Mais en revanche, je pense que le problème défensif, il est un brin plus compliqué et que ça va être un peu plus difficile à résoudre. Alors pour conclure...
Oui, parce que Pierre est en train de tomber dans l'uchronie, tu fais bien de conclure.
Ah, c'est simplement un récit d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique.
Bravo.
Voilà,
bravo.
C'est tout. Ça, c'est...
Merci.
Voilà, alors pour conclure, hier je vous écoutais hier et j'ai trouvé l'auditeur qui vous a appelé très bon quand dans son analyse sur Didier Deschamps. C'est vrai qu'on a l'impression que Deschamps en fait a essayé de trouver le système pour permettre de mettre tous les joueurs qu'il avait envie. Voilà. Oui. Le problème c'est que en faisant comme ça, il y a pas vrai, les joueurs jouent pas vraiment à leur place. Moi je pense que par exemple, je l'ai dit plein de fois, Kanté c'est pas son poste, mais il va absolument mettre Kanté et Pogba et Matuidi. Et ça fait que Kanté joue un poste qui est contre nature et qui déstabilise le bloc équipe. On se prive de la létalité de Griezmann dans la surface de réparation parce qu'il faut bien faire jouer Griezmann dans l'axe, mais avec Mbappé et Giroud, donc on le met en 10 alors que à sa meilleure place ça serait plus dans la surface. Enfin bref, le premier match arrive bien vite et j'ai quand même l'espoir. Je pense que Deschamps c'est un coach qui est hyper pragmatique. J'ai encore en tête son passage à l'OM où il avait remis en cause certaines de ses idées des a priori qu'il pouvait avoir sur Valbuena ou sur Ben Arfa par exemple. Et je pense qu'il est assez intelligent pour avoir vu ça contre les États-Unis et je m'attends à ce que cette composition d'équipe qui semble gravée dans le marbre lorsqu'on en écoute certains, je m'attends à l'avoir changé et je suis pas non plus hyper inquiet parce que même si ça me convient pas pour l'instant, je pense qu'on a quand même des belles ressources sur le banc, notamment dans ce secteur défensif.
Alors Pierre, Jonathan a développé pas mal de choses. Qu'est-ce que tu retiens ?
Ah, deux mots déjà. Oui. Létalité, mais qui est plus facile, mais associé à Griezmann qui fait un peu flipper quand même.
Ah, il est létal Griezmann dans la surface.
Ouais.
Mais létal en français ça passe ? Parce que moi je l'ai en espagnol parce que.
Ah bah oui, non, si
vous le dites.
Une arme létale.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Mais ça fait, enfin bon, c'est un peu sévère, non. Mais alors, pour être plus
parce que Griezmann c'est devenu un genre méchant à l'Atlético.
Pour être plus sérieux, malheureusement, ce que Joe explique sur le plan du secteur défensif, on peut à peu près le transposer dans n'importe quel secteur. C'est qu'on a du mal finalement à comprendre le plan de jeu de l'équipe de France, les bases, les circuits préférentiels, ce que chacun doit.
Malheureusement,
non.
Quatre joueurs derrière. trois milieux de terrain travailleurs et deux solistes qui font la différence.
Je vais te dire un truc, quand tu regardes des équipes où ça joue, où c'est beaucoup plus fluide, même si ce sont des équipes qui auront aussi parfois eu du mal dans leur dernier match, parce que c'est, Joe l'a dit, ce sont des matchs à part, ces matchs de préparation, parce qu'il y a l'approche de l'événement qui fait que mais t'as quand même beaucoup plus de certitude ou beaucoup plus de connaissances sur ce qu'ils vont faire. Alors il reste imprévisible, mais nous, ce qu'on appelle dans le foot les circuits préférentiels, par exemple. Honnêtement, moi aujourd'hui, je suis incapable de te dire comment l'équipe de France effectivement serait mieux tactiquement avec ce que j'ai vu dans les 7-8 derniers matchs de l'équipe de France, que ce soit sur le plan offensif, que ce soit sur le plan défensif. Effectivement, il y a des choses basiques, et Joe a raison de parler d'un problème collectif et pas d'un problème uniquement de gardien ou de défenseur.
Ça serait trop simple,
ça serait trop facile et ça serait beaucoup plus vite réglé à mon avis. C'est que tout part de la manière dont on défend pas en bloc, justement. Les sorties de balles des Américains, pour moi, ont été mais tellement facile. Je vous jure, regardez le match comme Joe l'a fait ce matin, mais en deux passes, tu touchais un latéral et un latéral qui avait 30 mètres devant lui sans personne. Et c'est pour ça, tu parlais des latéraux qui savent jamais quand sortir, pas sortir. Quand t'es latéral et que t'as pas un seul milieu devant toi, que t'as pas un seul excentré, un attaquant qui fait ce premier rideau, permet de te positionner en fonction, c'est-à-dire soit tu restes avec ton attaquant parce que t'as un milieu qui est là pour faire tampon, soit t'as un milieu qui vient un peu t'aider, donc tu peux sortir parce que tu sais que tu vas être couvert à un moment donné. Et ben là, ils peuvent pas, ils sortent.
Tu sais bien ce que j'ai vu ce matin, c'est que bon, alors c'est facile de lui taper dessus en ce moment parce que c'est un peu la tête de Turc, mais Pogba a vraiment déstabilisé le milieu de terrain de l'équipe de France parce que à chaque fois il se replaçait pas et Matuidi essayait vraiment de redescendre pour compenser. Ouais. Donc à la fois il se remettait un petit peu dans l'axe au niveau de Kanté.
C'était le meilleur offensivement du milieu de terrain. Okay. Pogba.
Mais défensivement c'est important aussi. Il a perturbé
l'équipe.
Matuidi,
on l'a souvent vu avec Kanté et souvent même prendre la place de Mendy. Hein.
Exactement.
Ça peut arriver, pas de souci.
Mais le problème c'est qu'en faisant comme ça défensivement, ça restait quand un petit peu bancal, et sur les phases offensives à chaque fois il manquait cette présence là côté gauche aurait permis d'écarter le jeu
et côté droit ça n'a pas été doublé. Côté droit, moi je veux bien qu'il y ait des problèmes derrière, mais moi je suis prêt à les accepter, les problèmes derrière, si devant il n'y a pas de souci. Mais le problème en fait c'est que devant on n'est pas assez dangereux pour assumer un
les deux sont liés, Jean-Louis.
Mais ce qui sauve tout, c'est qu'à chaque fois on l'a dit hier, il y a un arbre qui cache la forêt, c'est qu'il y a un talent pur chez les garçons qui vont faire que, alors soit en phase offensive où tu as une action de génie à un moment donné, Mbappé qui démarre,
un moment il y a un très bel action Pogba Tolisso aussi.
Ouais, voilà, un Pogba qui va te mettre une frappe de loin, ça va mais on a été en finale de l'Euro un peu comme ça finalement et ça peut marcher, ça peut remarcher sauf qu'avec tout ce potentiel, effectivement, t'as envie de croire que tu peux faire mieux et de façon plus sûre, quoi, plus fluide.
Ce sera pas différent déjà de ce qu'on a vu.
Non, malheureusement.
Ce sera la même idée. À mon avis, moi
mais ça peut marcher, hein. Ça peut marcher comme ça.
Selon moi, ce sera Tolisso, Pogba, Kanté, le milieu de terrain qui commencera
demain samedi.
Je pense qu'il a vu qu'avec Matuidi, ce milieu Matuidi, Kanté, Pogba, quand il faut faire le jeu, ça va pas. Enfin, il a dû le voir quand même. Et s'il veut maintenir son système avec Griezmann dans l'axe. Alors aujourd'hui, il a dit d'ailleurs Didier Deschamps que c'était un 4-3-3 qui évoluait en 4-4 de losange.
C'est l'animation.
Moi, le 4-3-3 contre l'Australie, je l'ai jamais vu.
Je sais pas ce que le sélectionneur a demandé aux trois joueurs, aux trois offensifs. Mais je n'ose pas
imaginer qu'il ait demandé
à ses joueurs de jouer dans 15 mètres carrés dans l'axe. C'est pas possible.
Ce qui m'a frappé ce matin, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que il jouait dans l'axe, c'était une consigne, mais que les latéraux et l'apport des milieux, des deux milieux qui sont censés faire le piston quand tu joues comme ça en losange, n'a pas été suffisant et que du coup, c'était vraiment dans l'entonnoir.
Parce que ce sont des milieux qu'ont jamais l'habitude de jouer dans losange comme
exactement.
Ça, beaucoup plus écarté.
C'est pour ça que Corentin Tolisso, à mon sens, apporterait beaucoup plus.
Autre chose.
Parce que il a cette faculté à justement, à la fois, à se projeter très vite vers l'avant, à être très bon dans les phases de transition et à la fois apporter cette largeur sur le terrain quand t'attaques et à la fois être assez discipliné pour comprendre comment il faut se replacer entre son latéral et entre le central.
Alors ça peut apporter un mieux,
équilibrer la défense.
Ça peut apporter un mieux, ce que tu viens d'expliquer. Moi je reste persuadé aussi que ça peut, si tu veux jouer comme ça, à un moment donné, il va falloir qu'un Mbappé aille se sacrifier de temps en temps et écarter sur un côté. Il va falloir qu'un Griezmann, à un moment donné, il aille aussi au départ des actions, écarter les défenses sur les côtés. Ça veut pas dire qu'ils vont bouffer la ligne tout le temps, mais ça veut dire qu'à un moment donné, t'es obligé d'écarter, de créer ces espaces pour que des Tolisso, pour que des Pogba en arrivant derrière aient des espaces.
Bien sûr. Griezmann et à Mbappé de faire ces efforts-là parce que c'est pas Giroud qui va demander d'aller
tu mets pas Giroud effectivement,
tu peux très bien envisager de mettre
Mbappé dans l'axe et tu mets un Dembélé sur un côté par exemple, ou autre.
Je peux très bien envisager de mettre Lemar en 10, il y a plein de possibilités, c'est pour ça que je suis pas non plus voilà, il y a pas de quoi être, enfin, il y a de quoi être inquiet sur ce qu'on a vu, mais il y a quand même de sacrées ressources.
Disons qu'il y a de quoi être inquiet sur le plan collectif, mais il y a des individualités telles
pour
que
te sauver.
Voilà,
mais surtout que Deschamps,
ça peut passer comme ça.
Le raisonnement de Deschamps, il est, enfin, je trouve, moi, peut-être, je me trompe dans l'interprétation, mais il m'a pas l'air très compliqué. C'est Mbappé, Griezmann, des joueurs exceptionnels devant, et ben, je vais les mettre dans les meilleures conditions pour que eux fassent la différence. Alors, à tout moment, peu importe les schémas de jeu, les circuits préférentiels, de toute façon, en sélection, tu ne peux pas travailler ça.
Sûr,
et je pense que c'est le raisonnement de Deschamps.
Compliqué, c'est compliqué de travailler.
D'accord. Donc, mais les individualités, on les met dans les meilleures conditions.
Rappelez-vous.
Ça veut dire milieu à trois derrière pour les décharger de travail défensif.
C'est à eux de faire, et devant, devant, on laisse faire les trois.
À la Juve. À Monaco, à Marseille, ça a toujours été un petit peu comme ça. À Marseille, c'est vrai que le jeu était pas non plus flamboyant l'année du titre. Ça reposait beaucoup sur les passes de Lucho et les appels de Maman Niang. Mais il y avait quand même dans ces trois équipes une base défensive qui était impressionnante.
Oui, oui.
À Marseille, quand t'avais Diawara, Mbia, Alou Diarra, enfin Edouard Cissé l'année du titre, avec, enfin c'était, il y avait vraiment des déménageurs derrière. Et derrière, t'avais pas ces doutes là. T'avais vraiment une organisation défensive qui était top niveau. Là, j'ai du mal à le voir. Et je suis d'accord avec toi, Jean-Louis. Je pense qu'il pense ça. Il pense que la lumière va devenir du talent individuel des joueurs qu'on a. Mais ça marche que si t'es très solide derrière.
C'est vrai. Alors, quelques messages sur le hashtag RMC Live sur Twitter. Pierre nous dit, l'équipe de France et Lyon, même combat. Ça se repose sur des individualités sans fond de jeu. Donc, pourquoi pas Genesio, futur sélectionneur? Eh oui, pourquoi pas. moi, je vois comme problème.
Le problème, là, c'est lui un peu. C'est les vacances, là.
Ouais, c'est vrai. Petit c'est Prince vrai. Du Parc nous dit, pour moi, le problème, c'est au niveau de la dualité des latéraux et leur rapport vertical par rapport aux meneurs de jeu.
Il a raison. Il a raison, mais ils ont pas apporté. En gros, ce qu'il dit, c'est que les latéraux sont pas assez projetés.
Ouais,
il a
raison. Non, la dualité, je comprends pas. Après, le reste, oui.
Mais le problème, c'est pas que les latéraux, c'est aussi Pogba et Matuidi quand tu joues dans ce système-là, qui doivent apporter dans les half space quand t'attaques. Et ça, ça a été très mal occupé. On a très mal occupé la largeur du terrain, et c'est aussi de la faute de ces milieux-là.
Messieurs, on arrête là sur l'équipe de France et on revient dans un instant pour vous parler de Patrick Vieira. C'est fait à Nice, supporter niçois, on vous attend au 32-16. Venez nous dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes content de voir un nouveau visage en Ligue 1, Patrick Vieira, qui a l'expérience de grands clubs européens quand il était joueur, ou si vous êtes plutôt sceptique parce que ça va être sa première expérience en Europe. 32-16, on vous attend, on sera avec un joueur de MLS qui connaît bien l'after et qui va nous parler de lui. À tout de suite.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Jean-Louis Tour.
L'After est là avec Jonathan McCarty, avec Pierre Ducrot. On est sur RMC, sur BFM Sport, bien sûr. Gros plan sur la Belgique dans un quart d'heure avec les Belges qui se baladent, oui. Qui mènent 4-1 face au Costa Rica. Attention, sorti en grimaçant d'Eden Hazard. Donc on demandera à Sacha Tavolieri.
Et il est pas bien là, il a la petite trace de pneu dans le slip là.
Eden?
Non, c'est Sacha.
Ah, Sacha, bon, t'inquiète, c'est bon. C'est pas mal qu'il perde 1-0 ce match.
Il s'est endormi de dire ça d'Eden, quoi.
Ouais. Si, il aurait pu se permettre.
Si, quand même.
Et puis les drôles de dames, les autres seront là, les traditionnelles, celles qu'on retrouve toute l'année, le lundi entre 23h et minuit. Fred Hermel nous parlera de l'avant-centre de l'Espagne. Philippe Auclair nous parlera de l'objectif des Anglais, c'est peut-être pas forcément sur le terrain. David Lorto nous parlera de l'Allemagne. Et étonnamment, l'Allemagne manque de leader. C'est ce que nous dira David tout à l'heure. Et puis Jonathan, tu nous as préparé également un avis tranché sur tes nations sud-américaines. Il en restait une.
La Colombie.
Donc on va faire la Colombie.
Un des adversaires des Bleus, justement, qui a causé beaucoup de problèmes.
L'un des adversaires des Bleus.
Qui avait causé beaucoup de problèmes.
Oui, bien sûr, qui a gagné 3-2 au Stade de France. Ouais. Il y a quelques mois maintenant. On vous attend bien sûr au 32-16. On va s'intéresser tout de suite à Patrick Vieira. Vieira qui débarque donc en Ligue 1. Ça y est, ça a été officialisé aujourd'hui. On va en parler avec la vie tranchée de Pierre, mais également avec un ami de l'after, puisque Damien Périnel est avec nous au téléphone. Il était dans le studio à ta place, Pierre, il y a quelques jours. Salut Damien!
Bonsoir tout le monde.
Salut.
Salut Damien.
On rappelle que toi, tu as joué au Red Bull de New York et donc tu as affronté dans des derbies incroyables le Red Bull City de Patrick Vieira. Donc tu pourras nous en parler avec ton regard d'américain.
Il a pas beaucoup gagné d'ailleurs.
Ah, très bien. Bon, on lui rappellera.
Ça, c'est la remarque de l'école Jean Bretagne.
Ouais, c'est ça. Non, Jérôme aurait dit oui. C'est pas moi qui ai joué dans le même championnat que Vieira, c'est Vieira qui a joué dans mon championnat.
C'est vrai aussi.
On y va. Avis tranché de Pierre Ducrot. Jingle Ducrot.
Très très compliqué, très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Évidemment, on a adapté le jingle du Croc à cette sortie magnifique.
Alors, je précise pour ceux qui n'ont pas reconnu ma voix que c'est pas moi, là.
Oui, c'est pas Patrick Vira, bien sûr.
Voilà. Je cautionne pas ses propos.
Donc, c'est fait pour 3 ans, donc, Vira à Nice. Il succède à la fois à Puel et à Favre. C'est bien ce qu'a dit Jean-Pierre River, qui était le président d'Antim du Gast après-midi, puisqu'il dit que ça s'inscrit dans une certaine continuité.
Ah, la vache, je l'ai écrit dans mon œil tranché et je n'ai pas écouté cet après-midi
Jean-Pierre
River. Donc, ça va. Ouais. C'est que, moi, je suis entièrement d'accord. Ouais.
Alors, il dit pas forcément dans le jeu, on va en reparler, mais dans l'état d'esprit et la façon de faire progresser les jeunes.
Mais bien sûr. Il n'y a pas que ça, je pense.
Donc, ça te plaît globalement?
Ouais, moi ça me plaît. Alors, après avoir prédit le retour fulgurant de l'OGC Nice l'année dernière en Ligue 1, 6 mois avant tout le monde.
On t'a dit top 5, ils ont fait 8e.
Non, j'avais dit 6, place européenne.
Oui, 6.
Voilà, bon. Si, j'avais dit, ils finiront européens. Bon, c'est pour la blague, effectivement, je...
Il aime bien ça, Mousse.
C'est un petit Roten, quoi, tu vois.
T'as besoin d'amour, Pierre.
C'est un bébé Roten.
Bravo, Pierre.
Non, mais c'est pour la blague. J'ai juste la sensation qu'effectivement, moi, la rencontre Vieira au GC Nice, c'est une très bonne idée. Voilà. Peut-être l'idée, la bonne idée de coach à prendre en Ligue 1 cette saison, enfin dans ce mercato. Pourquoi? Alors, il y a bien sûr le vécu déjà de Vieira qui le rend crédible. Du moins au début, il y a son réseau. Il a connu tous les plus grands dans ce milieu et ça va forcément lui servir pour attirer des joueurs ou pour peut-être en conserver. Il y a peut-être l'exemple de Balotelli. On va voir ce que ça peut donner, mais ça peut jouer fortement sur l'avenir de Balotelli.
Alors, on sait jamais.
Bien sûr, tu peux tout faire. Hein, c'est ton émission.
En conférence de presse, je suis à votre service. En conférence de presse aujourd'hui, donc Vieira a dit je lui ai envoyé un message parce qu'ils sont connus en Italie.
Ouais, c'est ça, du côté de l'Inter.
Voilà, et il a dit qu'il l'attendait pour la reprise le 2 juillet. Alors bon, on a demandé à Jean-Pierre River, le président, ce qu'il en pensait. Il dit, tous les joueurs sous contrat, on les attend à la reprise le 2 juillet. Maintenant, il peut se passer des choses sur le marché des transferts. Mario a un bon de sortie, comme Seri, comme Pléa notamment.
Non mais si.
Mais s'il a envie de partir, rien n'est fait avec Marseille.
Voilà, s'il a envie de partir, il partira. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut jouer dans sa décision et dans sa réflexion à Mario Balotelli. Et ça jouera aussi dans la réflexion, je pense, de joueurs qui seront amenés à venir à l'OGC Nice. Donc ça, c'est tout le côté ancien joueur, j'ai envie de dire, ou passé ou vécu de Vieira. Et puis il y a aussi ce qu'il a commencé à faire comme jeune coach, donc partir déjà en entraînant des équipes de jeunes comme certains l'ont fait et ça marche plutôt bien. Donc du côté de Manchester City avec les U19, la Youth League et ensuite les U21. Il y a ces 2 ans dont Damien nous parlera sans doute mieux que moi du côté des États-Unis à New York qui se sont plutôt bien passés. Je crois qu'il termine 2 fois deuxième de sa conférence, pardon. Ouais. Et moi, ce qui me plaît là-dedans une fois de plus, c'est la cohérence de la rencontre. Voilà. Quand je regarde le truc, l'OGC Nice a développé une sorte d'ADN au niveau du jeu, au niveau, tu le disais Jean-Louis, de l'état d'esprit. Il y a pas que on veut un coach qui aime le jeu. C'est pas que ça. Quand tu parles de continuité de Puel, Favre et Vieira, c'est pour moi des gens qui ont une espèce d'autorité naturelle, oui. Qui sont fermes avec leur groupe tout en étant très calmes et très posés, mais très fermes aussi quand même. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que Vieira est dans ce style-là et qu'effectivement, là-dedans, on est donc dans une certaine continuité au niveau des intentions de jeu. Parce que moi, Damien nous en parlera aussi, mais j'ai entendu dire qu'au niveau du jeu, des entraînements, etc., c'était plutôt pas mal. Qu'il y avait une certaine connaissance ou compétence plutôt au niveau de la gestion des jeunes joueurs, et ça à Nice c'est important, et ouais. c'est pas le hasard si je pense les dirigeants niçois et la cellule de recrutement dans son ensemble a choisi un garçon comme Patrick Vieira aussi. Donc voilà, j'ai juste l'impression que finalement ce choix, une fois qu'il est fait, on n'y pensait pas forcément il y a un mois, mais une fois qu'il est fait, c'était le meilleur choix possible, ouais. Et c'est logique, quoi. C'est juste le choix logique.
C'est vrai qu'il remplit 2 critères déjà, c'est faire progresser les jeunes parce qu'il connaît les équipes de jeunes, et le côté effectivement grand club, professionnalisation, faire passer un cap à l'OGC Nice.
Ouais, il va profiter de tout ce qui a été fait avant. Mais je pense qu'il est peut-être capable de continuer à le faire progresser, quoi.
J'ai l'impression d'entendre Jean-Pierre River cet après-midi là avec.
Eh ben je vous jure que j'ai pas écouté l'antenne puisque j'étais pas devant ma radio.
Et après,
mais
Damien.
Très rapidement, moi je connais pas Patrick Vieira en tant que coach, donc j'ai pas d'avis sur la question. La seule chose qui me chagrine, on va dire, peut-être pas, mais un petit peu, c'est qu'on est quand même passé de 2 entraîneurs avec une très forte expérience qui ont réussi à faire de très belles choses avec des moyens somme toute limités. en s'appuyant sur la qualité de la cellule de recrutement niçoise, qui est fort, probablement une des meilleures cellules de recrutement de Ligue 1 en rapport qualité-prix. Et de voir comme ça un entraîneur inexpérimenté, même s'il a voilà entraîné des équipes de jeunes et qu'il a fait 2 ans aux États-Unis, inexpérimenté, c'est quand même un entraîneur qui est un jeune entraîneur. Ça m'inquiète un petit peu, mais je demande à voir. Je suis pas, ouais, voilà, j'ai
c'est,
pas.
C'est pour ça que je te dis qu'il va profiter du travail de Puel et de.
Je garde en mémoire juste une chose. Alors c'est vrai que c'est deux contextes différents, mais j'ai quand même toujours un petit peu la jurisprudence Ravanelli. Je pense que tout le monde était assez excité de le voir débarquer en Ligue 1, il avait entraîné des équipes de jeunes à la Juve, ça s'est bien passé.
Pas la même chose.
Ouais, mais c'est vrai que le contexte était différent.
Le contexte et je pense aussi ses principes de jeu, d'entraînement, etc. étaient bien différents.
Attention,
tu peux trouver des contre-exemples des deux côtés.
Oui, l'étiquette. La seule chose que je veux dire, c'est que l'étiquette ancien grand joueur, c'est pas un gage de qualité.
Non, bien sûr que non. J'ai pas parlé de ça. Moi, j'ai dit que ça pouvait lui apporter un peu de crédibilité.
Une dernière chose,
début.
C'est sans remettre en cause son potentiel en tant qu'entraîneur. Je pense qu'il arrive dans une phase de l'histoire niçoise qui n'est pas non plus la plus simple à gérer. Il va avoir beaucoup de départs.
C'est
il
vrai.
Y a un flou institutionnel autour de ça. Donc voilà.
Damien, alors, il est comment le coach Patrick Vieira?
Bah justement, vous allez apprendre à découvrir un jeune coach ambitieux, tout du moins au niveau du jeu. C'est quelqu'un en fait qui a un schéma tactique préférentiel, un 4-3-3 ou plus un 4-1-4-1, voilà, avec une animation offensive, du moins quand on a le ballon, qui est super intéressante à regarder. C'est, de toute façon, c'est l'école Guardiola. Hein. Il a été formé à Manchester City. Et on voit beaucoup de similitudes dans les schémas de jeu qui recherchent. C'est-à-dire qu'à savoir que ils ont interdiction de balancer quasiment. Les défenseurs n'ont presque jamais le droit de jouer long. Dès que le gardien a un 6 mètres à faire, et les deux centraux qui s'écartent au maximum, et même s'ils sont sous pression, ça joue. Alors ça joue même presque à outrance parfois. Donc déjà, il va pas falloir que les défenseurs niçois aient les pieds gelés, parce que sinon ça va être compliqué. Et le seul bémol que je mettrais, c'est plus au niveau de la récupération. Sur ce que j'ai connu moi à New York, sur la récupération du ballon, où il n'avait pas forcément des gros travailleurs, parce que l'équipe est tellement écartée quand elle a le ballon que dès qu'on met une pression, qu'on récupère, on peut vite les mettre en danger. Sinon, après sur le côté, c'est quelqu'un qui est assez pédagogue. Il va jamais s'énerver, crier contre un joueur. Mais il va plus donner des conseils. Voilà, en gros, voilà, peut-être que là sur ce coup-là, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu jouer en une touche, ainsi de suite. Voilà. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui avait un jeu très 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 plaisant à voir. Et il est déjà regretté en MLS. Hein.
Ah oui, d'accord. Okay. Donc il a vraiment marqué le championnat. Est-ce que du coup, comme t'as commencé en nous disant que t'avais gagné quelques matchs contre lui, est-ce que justement cette recherche de jeu va pas parfois à l'encontre de résultats? Est-ce que c'est ce qui s'est passé?
Mais c'est-à-dire que justement nous c'est la philosophie Red Bull, hein, donc c'est-à-dire que c'est pas que New York, hein, mais c'est la même philosophie que Leipzig et Salzbourg, à savoir un pressing tout terrain et une récupération haute du ballon et se projeter vite vers l'avant. Donc c'est ce qui avait fait notre force à chaque fois. Alors peut-être aussi parce qu'il avait pas les joueurs.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être un problème de profil aussi, Damien, c'est ça aussi.
Pardon.
J'allais dire, c'est peut-être un problème de profil. Peut-être qu'il n'avait pas les bons profils pour complètement aboutir sa méthode et ses principes.
Voilà,
de jeu.
Alors en plus, il avait une équipe jeune. Mais c'est pas pour autant que s'il se prenait un but justement parce qu'on les avait contrés haut, qu'il y avait une erreur, c'est pas grave. Le prochain coup, c'était la même chose. Il les encourageait à continuer dans ce schéma. Après, forcément, hein, le championnat américain est différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il n'y a pas d'européen, il n'y a pas de tout ça. Donc, on peut se permettre de faire des erreurs sur quelques matchs. Voilà. Et par contre, le bémol, c'est que quand il y a eu les playoffs et qu'il y a eu des matchs à élimination sur les matchs aller-retour, et ben là, ça a été un peu plus compliqué quand il a fallu serrer le jeu, quand il a fallu être vraiment que pour les résultats. Là, c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais après, il est comme tout le monde, hein, il va grandir. Et en tout cas, les joueurs niçois vont vraiment prendre du plaisir à l'avoir au quotidien à l'entraînement, quand c'est persuadé.
Ok, bah écoute, très bien. Merci Damien.
Et tu cherches un club, Damien, là.
T'en es où, là? T'as trouvé depuis?
Pour l'instant, je joue lundi soir pour garder la forme.
Mets un texto à Vieira.
Très bien.
Mets-lui un texto à Vieira.
On cherche.
Mais mets-lui un texto à Vieira.
Tu veux revenir en Europe, Damien, ou
à Nice?
C'est quoi l'objectif?
Moi, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, donc moi, je suis libre.
Tu peux aller partout
dans le monde.
Oh, t'es le joueur idéal, là, Damien. T'es libre, pas d'attache.
Et t'as un agent?
Non.
Oh là là, mais t'es plus le joueur idéal, là t'es la perle rare. Bon, on s'appelle après l'émission, d'accord.
Vous allez pas vous faire beaucoup de sous avec moi.
C'est pas grave.
Pierre, il fait qu'à l'affect.
Exactement, il n'y a pas que les sous.
Ouais, c'est ça.
Là-dessus, je peux le dire, moi. Il n'y a pas que les sous, parfois.
Il n'y a pas de problème.
Les belles histoires, ça existe aussi.
Le FC RMC, était chaud, c'est sûr, sur moi, mais apparemment, on n'a pas pu.
Ah, ils sont déjà champions.
C'est que le niveau est trop élevé, Damien. Mais en revanche, Pierre, il peut trouver un challenge pour toi, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas d'être venu dans l'after.
Ciao Damien.
Salut Damien, avec plaisir. Bon alors toi tu fais ça pour les belles aventures humaines. En revanche si ça se fait,
pas que, mais
si
ça existe
ça se fait
aussi
et que ça a commencé dans l'after, nous on veut un pourcentage avec Jonathan.
Bien entendu.
L'aventure humaine.
Bien entendu.
Mais lui c'est le même genre de racket que Villas. Hein. Nico là et Mazou là, c'est lui qui l'a mis en Ligue 2. Et ben il a remercié
en
direct.
Non, il a pas fait ça. Il en a parlé en direct.
Ouais. Mazou a dit merci Nicolas Villas de m'avoir aidé à trouver un club.
Eh oui, parce que c'est lui qui a lancé. Mais c'est lui qui a lancé le. C'est lui qui avait lancé l'idée. C'est lui qui avait lancé l'idée à l'antenne.
L'idée,
en fait.
Il a lancé, excusez-moi. De prendre Moussa Mazou un club.
Non, ou de revenir encore, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
C'était
ouais.
L'idée. Ça s'est fait après, quoi.
Non, mais Nicolas Avoué, il a pris des sous.
Non, c'est pas vrai.
En cash, non déclaré.
Non, mais là, sur Périnel, on peut peut-être.
Non? Bah, c'est un bon profil, en tout cas, Damien. C'est un bon joueur. C'est un très bon joueur, Damien.
Tu pourrais placer Jonathan.
Tu me passeras son numéro après si. Tu lui demanderas s'il est d'accord, mais surtout.
Ouais, bah oui, trop mal de combat, là, ça fait longtemps.
Des combats où tu peux le mettre à déchiffrer des lettres, je pense. Tu peux faire ça.
Ah, mais bon, bien sûr. Ouais, mais il faut, tu sais, dans le tirage, il faut qu'il y ait deux X, deux Z, deux Y.
Comment s'appellent ces trucs-là sur les autres chaînes, là? Tu sais, où ils sont tous
les anges.
Mais, voilà.
Mais il dit ces trucs.
Non.
Toi, tu serais très bon dans les anges.
Bah, ouais, t'es connard. Je suis associable. Les entrejoints sont joués.
Et ben, justement, ça peut créer un personnage.
C'est ce qu'ils aiment, ouais. C'est ce qu'ils aiment.
Moi, je tape direct, hein.
Ah, oui, mais enfin, bon, ça n'empêche
pas. Avec moi, je tape direct.
Peut-être pas, mais...
Tu tapes direct, mais tu tapes pas
non,
direct.
Non, t'es intelligent, tu t'adapterais un peu.
Je vous rappelle qu'on n'est pas là pour faire la promotion de la violence, comme on fait à chaque fois avec Jonathan, ni la promo du machisme et du sexisme.
Hein. Mais c'est souvent avec Jonathan,
oui, c'est souvent avec toi, moi. Mais je te vois avec tes métaphores et avec ta façon de parler.
J'aime les femmes, moi, monsieur.
Oui.
Je les respecte.
C'est bien. Oui, bah, je continue de respecter.
Je les aime toutes.
Dans un instant, la Belgique. La Belgique, donc, qui s'est imposée 4-1, c'est terminé, là?
Ouais, c'est fini.
Sacha Tavolieri va nous rejoindre dans une seconde. Supporters belges, on vous attend au 32-16. Supporters niçois également, on vous attend maintenant que vous avez votre nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Qu'attendez-vous du recrutement? Puisqu'il y aura les départs sans doute de Balotelli, de Pléa, de Seri. Il y a une équipe aussi à reconstruire, donc on peut en parler avec vous. On vous attend dans l'after avant de passer en mode 100% européen avec Fred Hermel, avec Philippe Auclair, avec David Lorto. À tout de suite sur RMC, sur BFM Sport.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Louis Tour.
Jonathan Bacardi est là, Pierre Ducrot également, et nous accueillons tout de suite Sacha Tavolieri, notre spécialiste du football belge.
Quidam, bonsoir Jean-Louis, comment ça va?
Ça va très bien,
bonsoir Sacha. Bonsoir une fois.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Sacha.
Le dit bonsoir une fois.
Ça, c'est ce cliché.
Il est machiste et je suis désolé, mais
non,
ça c'est un cliché.
J'aime beaucoup les
Belges.
J'aime beaucoup les Belges.
C'est pour ça que tu te fous de leur gueule.
J'ai eu des petites copines flamandes qui étaient très jolies, mais elles parlaient pas un très français.
Tu vois, ça revient là-dessus.
Mais non, mais il est pas bête parce qu'il sait où se trouvent les mannequins.
Tu pourrais parler de la.
Vas-y, dis-le, mais dis toute la vérité.
Je pense que 70% des mannequins qui sont à Paris viennent toutes de Flandre.
Ouais, bah c'est effectivement. Voilà, exactement.
Mais ils aiment pas les Français là-bas.
Nous, on a des modèles plus latins.
Mais ils aiment pas. Non, mais ils aiment pas les Français, par contre, j'ai l'impression.
Ah bon? Ils aiment pas les Français.
À Anvers.
Ah, pas du tout. J'ai eu l'occasion d'en parler justement avec Patrick De Coster, qui est l'agent de Brown. Il adore la culture française et sa femme aussi. Non, ça, c'est pour ça que tu
dans les clubs, c'est vrai. Parfois, c'est vrai. Il y a des.
Alors, c'est plus dur. Il faut savoir parler
même
néerlandais.
Même au niveau de l'arbitrage, parfois, voilà. Ça se ressent aussi en Belgique.
Jouer avec
des Belges, non. Je crois pas.
Il y avait bien un petit Wilmots qui traînait à Bordeaux.
Ouais, possible. Ah ouais. Possible.
Rien.
Non, mais je m'en rappelle plus. Avec, c'est sûr que non, mais contre, non.
Bah si, le gardien de but de Bordeaux, t'as joué contre.
Non, moi quand j'ai joué contre Bordeaux, c'était Ulrich Ramé, qui c'est qu'il y a eu encore. Beaucoup Ramé, je pense.
Ouais. Bah, il a beaucoup ramé d'ailleurs aussi, non?
Mais c'est excellent ça. L'humour belge est avec nous.
Allez, oui.
Tu te donnes le bâton pour te faire battre.
Bon,
alors, Sacha.
Oui.
Tout va bien, là. 4-1 contre Costa Rica.
Voilà.
T'es un peu enthousiaste, j'ai l'impression.
Je suis très heureux. Ouais, je suis très heureux parce que je sens que ces joueurs commencent à prendre confiance en eux et c'est le plus important. Et maintenant, c'est notre rôle, nous, aux personnes qui parlent de la Belgique, que ce soit au niveau des médias à l'international ou au niveau national, c'est à nous de prendre le relais. C'est à nous, à un moment donné, d'être positifs et d'être optimistes avec cette génération. On a parfois, et je suis le premier responsable de ça, été trop négatif avec la Belgique. J'ai parfois moi-même été parfois un peu trop dur avec cette équipe parce que j'essayais de parfois une rigueur journalistique, bon parfois dont je sais même pas moi d'où elle vient,
d'être non, c'est simplement parfois qu'il y a un potentiel qui était pas tout le temps exploité.
Oui, mais parfois mais moi-même je me suis remis en question. En
fait, on est toujours dur avec ce qu'on aime.
Oui, voilà, tout ça est venu de quelque chose. Ce matin, j'ai lu une tribune écrite par un journaliste sportif qui s'appelle Patrick Stein, que je salue d'ailleurs, grand amateur de l'After, qui a écrit à son public et aux gens de son Facebook en disant voilà les amis, pas de défaitisme, soyons supporters même si nous sommes quelque part parfois pas d'accord ou s'il y a des choses qui nous divisent, on doit à un moment donné être tous pour la Belgique et être à 100% derrière notre groupe. Je pense que ça c'est vraiment le leitmotiv à ressortir, quoi. On doit être derrière cette équipe et cette équipe elle a besoin de nous comme nous on a besoin de cette équipe parce que c'est le moment ou jamais, c'est maintenant ou jamais.
Écoute, ton préambule est... il y a pas de problème. Le match de ce soir.
Le
en plus, te donne
soir.
Envie d'être positif.
Les stats sont impressionnantes, hein, qu'on voit quand même.
Ouais. On les voit là sur BFM Sport.
Et Denazar a été absolument étincelant dans ce match. Il a été absolument
juste au moment où il s'est claqué. Il est sorti en grimaçant, non ?
Oui, mais là, franchement, honnêtement, on peut pas ressortir d'informations sur ce qui s'est passé. Denazar est sorti blessé.
Il y a rien.
On attendra les scans et on en parlera dans les prochains jours.
Il est vraiment positivisme à voilà, outrance, là.
Exactement. Justement, durant ce match, et c'est important d'en parler, durant ce match, il est très important de signaler qu'on a vu des joueurs qui, en fait, prennent du plaisir et de jouer ensemble, mais de plus en plus, ils ont besoin de jouer ensemble. Ces mecs-là, ils ont besoin de, à chaque fois, de jouer de plus en plus. C'est ce que je te disais en off, Jean-Louis. Oui. Il y a un besoin de se réunir, de travailler ensemble, et ce groupe, il est en train, tout doucement,
ambiance,
de se former. Et c'est maintenant qu'ils ont besoin de nous.
Il y a une bonne ambiance sur et en dehors du terrain.
Il y a, tout va bien.
Parce que ça n'a pas toujours été rose entre,
ça n'a pas toujours été rose, mais ici, d'un point de vue football et jeu, on sent qu'en fait, ils sont tous impliqués, okay. Ils savent quelle est leur tâche, ils connaissent leur objectif et ils savent où ils veulent aller.
C'est un putain de bel outsider en tout cas.
Et voilà. Et si en plus de ça on ajoute le fait que on a eu du mal à trouver ce qu'on appelle notre sens commun, autant trouver une équipe qui fonctionne bien, qui sache jouer ensemble et qui ait du plaisir à jouer ensemble.
Tu peux nous donner la compo de ce soir ?
La composition de ce soir. Alors, je vous la donne tout de suite. Nous avions Courtois dans les buts, en défense centrale, Yann Vertonghen, Boyata, Alderweireld.
Ça a de la gueule déjà. Ouais.
Voilà. Dans le milieu de terrain, nous avions Meunier à gauche, Carrasco, Witsel, De Bruyne. Dans l'axe central. Et alors, dans cette position de soutien d'attaque, Eden Hazard, Dries Mertens, épaulé de Romelu Lukaku, qui a été très très intéressant.
C'est ancré que ce sera Witsel.
C'est ancré parce qu'en fait, ces joueurs ont besoin d'une boussole. Je l'avais déjà dit dernièrement, ils ont vraiment besoin de.
Il a de l'expérience, il a du vécu.
Tu pouvais écouter quand Sacha parle.
Voilà. C'est pas grave.
C'est vrai, mais c'est pas grave.
J'étais pas là.
C'est
possible
d'écouter tous les afters.
Qu'est-ce qu'il fait à
J'écoute le podcast à la muscu.
Qu'est-ce qu'il fait quand il fait sa muscu, là?
Il est bien. J'écoute d'abord Moscato et après j'écoute l'after.
Ah, très bien.
Et après, ça fait des longues séances.
On traîne 2 heures par jour.
Ça va pas travailler beaucoup tout ça quand même. Pour passer autant de temps à la muscu.
Le Moscato, c'est combien de temps les Moscato?
2 heures.
2 heures, ça lui fait 4 heures de séance par jour.
Je prends des belles pauses.
Toujours est-il que j'ai ma question. Est-ce que c'est l'équipe qui va commencer la Coupe du Monde, ça, ce 11-là? Ça y ressemble, non?
Tout dépend effectivement si Vincent Kompany est apte ou pas. Voilà, ce sera effectivement avec Boyata. Il y a toujours cette question, est-ce que Laurent Simon fera partie ou pas de ce groupe de 23? Il avait fait un excellent match face à l'Égypte. Ça reste le dernier suspense qui peut encore subsister. Mais ce groupe est celui qui ira très certainement défier le Panama le 18 juin.
Il joue encore aux États-Unis, Simon?
Pour Los Angeles Football Club. Voilà. Mais c'est un très bon défenseur central.
Mais il est là-bas parce que sa fille est malade, c'est ça, et qu'il a des soins. Mais c'est vraiment un joueur.
Effectivement.
À chaque fois que je l'ai vu jouer, j'ai toujours été
impressionné. Mais j'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet. J'en profite. Un jour, j'ai reçu un message d'un monsieur qui avait un enfant qui était atteint de la même maladie que la fille de Laurent Simon. J'ai envoyé un message à Laurent Et deux semaines plus tard, Laurent lui a envoyé un maillot dédicacé. Il trouvait ça absolument extraordinaire. Et je trouve que c'est une personne fantastique. Et on a besoin d'avoir des personnes comme ça dans le monde du football. Ça fait un bien fou. Et voilà, quand on est passionné de football, avoir des hommes derrière le foot, ça fait toujours du bien.
Mais il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Il parle français, Laurent. Oui, tout à fait. Il est à Charleroi.
On l'appellera un jour sur RMC.
Bien sûr, avec grand plaisir.
Pour parler de la Belgique.
Avec grand plaisir.
Alors, tu voulais rajouter quelque chose sur le match de ce soir, j'imagine. Il y a d'autres renseignements.
Romelu Lukaku, qui a marqué son, donc ça fait son 36e but avec les Diables Rouges. C'est fantastique. Et il faut savoir que Romelu Lukaku, avant la Coupe, du Monde 2014, il avait inscrit la moitié des buts. Et juste après la Coupe du Monde 2014, il a inscrit presque pratiquement plus de la moitié de ses buts avec les Diables Rouges. Ça veut dire qu'il y a un impact Thierry Henry, c'est clair. Ça veut dire qu'il y a un impact de Romelu Lukaku avec Manchester United. Il a c'est 16 buts avec United, on le rappelle.
Pardon. Il a progressé.
Il s'est rendu beaucoup plus adulte. Mais après, derrière, en termes de performance, il y a quand même un mec qui est encore arrivé, qui a encore montré toute sa classe, son intelligence dans ses déplacements. C'est Michy Batshuayi. Il est fantastique, ce mec. Ouais. Il est fantastique.
On en a parlé quand on l'a vu rentrer en off. On en a parlé. On aime tous ce joueur.
Il peut jouer, en fait. Bon, j'ai des souvenirs qui sont assez peut-être un peu vieux, un peu âgés de lui, mais j'ai l'impression qu'il peut jouer à la fois à neuf et peut même jouer à une des places de Hazard et Batshuayi.
Tu sais pourquoi
Michy, il peut jouer la place de Hazard.
C'est vrai qu'ils sont le jeu.
Parfois, Marseille, il jouait derrière Gignac. C'est arrivé que 2-3 matchs, Michy le mettre derrière.
Même à Chelsea, parfois, il est rentré dans ce rôle-là. Mais
insistons, pour toi, c'est un effet Thierry Henry, ce qui se passe avec Lukaku.
Je pense que Lukaku, Batshuayi, ils ont besoin de ce mec. Et l'équipe nationale, en fait, à l'Union Belge, l'idée de départ, c'était d'avoir Thierry Henry, non seulement effectivement pour apporter son expérience, son charisme, blablabla, mais la vérité, c'est qu'ils se disent, si on est en demi-finale, ce mec, il saura faire la différence. Il saura parler avec les coéquipiers et il saura dire les bonnes choses au bon moment. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est une des raisons, voire même pour moi, la raison la plus importante pour laquelle il a été engagé. Parce qu'il croit en lui et il croit en sa capacité justement de persuasion. Ça, c'est important à signaler.
Ce que je vous propose, t'as encore plein de choses à dire sur la Belgique.
Plein de choses.
Eh bien, on va continuer dans un instant, après 23h, avec Alex, qui est supporter belge, qui a fait le 32-16. On va lui donner la parole et on revient avec les avis tranchés des autres drôles de dames. Fred Hermel va nous parler de l'avant-centre de l'Espagne. Ça, c'est le feuilleton tous les deux ans. Ça revient à chaque grande compétition. Philippe Auclair nous parlera de la relation entre la sélection anglaise et le public. Et puis David Lorto tire la sonnette d'alarme. Il manque des leaders en Allemagne. On a l'impression d'entendre l'after en France. Mais c'est la même chose donc en Allemagne. A tout de suite sur RMC, sur BFM Sport.
RMC, le super football show, l'after foot.